Du 3 au 13 décembre, hashtag 2050 le podcast, votre shoot de futur, passe en édition spéciale, ancrée dans le présent, à l'occasion de la COP25 qui se tient à Madrid. 10 jours d'une quotidienne pour comprendre la COP, découvrir les acteurs qui y contribuent, des initiatives, mais aussi entendre des voix peu entendues et pourtant engagées dans la lutte contre la crise climatique. Parce que le futur de notre planète se joue ici et maintenant. Ce que vous entendez là, ce sont les voix de milliers, de centaines de milliers d'habitants du Chili. Ces dernières semaines, jusqu'à plus d'un million de personnes sont descendues dans les rues de Santiago, mais aussi partout dans le pays pour réclamer, entre autres, la démission du président Sebastián Piñera. Pourtant, je suis à Madrid, à l'occasion de l'ouverture de la COP25. La COP, c'est la conférence des parties. Elle réunit les 196 États signataires de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, entrée en vigueur en 1994, année de la première COP. En 2019, c'est la 25e édition, du 2 au 13 décembre. Lors de ces rencontres annuelles, les États doivent ou devraient s'engager pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et ainsi freiner les impacts de la crise climatique. Initialement, cette 25e édition devait avoir lieu au Brésil. Le choix d'un pays dit du Sud était important. Pour beaucoup, l'approche des enjeux climatiques reste occidentalo-centrée. Coup de théâtre en novembre 2018. Le président Bolsonaro annonce sa décision de ne pas accueillir l'événement. Sa véritable motivation tient sans doute en une phrase. Je le cite, « La politique environnementale ne peut pas entraver le développement du Brésil ». Le Chili s'est alors positionné. Mais le 30 octobre dernier, le président Piñera renonce à organiser la COP en raison de la fronde sociale qui traverse le pays. Dès le lendemain, était annoncée la tenue de la COP à Madrid, sur proposition de Pedro Sanchez, président en fonction du gouvernement espagnol. Mais, sous présidence chilienne, en la personne de Carolina Schmidt, ministre de l'Environnement. Le point de départ de cette révolte populaire ? La hausse du prix du ticket de métro, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase des inégalités, fruit du système économique et politique hérité de l'ère Pinochet. Alors comment parler de la COP25 sans regarder et comprendre ce qui se joue aujourd'hui au Chili ? Quelle est la situation sociale ? La crise actuelle concerne-t-elle aussi les enjeux climatiques et environnementaux ? Mais au fait, le Chili, vous demandez-vous ? Le pays compte 18 millions d'habitants et s'étend sur 4300 km le long de la côte ouest de l'Amérique du Sud, du Pérou au Cap Horn. Le pays affronte des risques naturels tels que les séismes, mais aussi des périls anthropiques, pollution de l'air des grandes villes, déforestation, sécheresse. Au triste palmarès des inégalités de l'OCDE, le Chili tient la troisième place du podium, derrière l'Afrique du Sud et le Costa Rica. Le 17 décembre 2017, Sébastien Piñera, richissime homme d'affaires, gagne une nouvelle fois, plus de 15 ans après sa première victoire, l'élection présidentielle.
Lo importante siempre fueron ustedes, sus familias, nuestro país y el futuro de Chile.
Lui, c'est le président Piñera, au soir de sa victoire. Mais depuis un mois, ce ne sont plus les cris de ses soutiens qui s'élèvent des rues chiliennes. La population réclame la fin des inégalités. Accès à l'éducation, santé, retraite, pour n'en citer que trois.
Évidemment, ce n'est pas du tout la hausse de tarifs du ticket de métro. Hein. C'est encore la jeunesse qui nous a ouvert les yeux, si vous voulez, nous a réveillés. Et c'est les 14, en fait, octobre, que ça a commencé.
Elle, c'est Lisette Alvarado Torres. Elle est chilienne, comédienne, activiste féministe, activiste pour l'égalité. Elle vit à Santiago du Chili et manifeste depuis plus d'un mois. Je l'ai eue au téléphone dimanche 24 novembre.
Pour moi, on est ici maintenant dans une espèce de nouvelle dictature qui s'est liée à la façon de faire une dictature dans cette époque de la vie du monde, si vous voulez. C'est peut-être pas pareil qu'à l'époque de Pinochet. Écoutez, Rebecca, je viens d'écouter M. Piñera de dire aux médias, là, à la télé, il y a un directeur, oui. Il vient de dire, il vient de soutenir encore à la police, il va envoyer des lois, encore une autre, au Parlement, pour demander que les militaires, ils peuvent sortir encore une fois, que c'est eux qui vont garder les espaces critiques, entre guillemets, de l'eau, de l'électricité, vous voyez, et comme ça, libérer aux flics qu'ils puissent venir encore à nous réprimer. C'est systématique. Rebecca, moi, je suis habite au centre-ville, à quelques rues de la Plaza de la Dignidad, en bas de ma maison. Tous les jours, il y a encore aujourd'hui, il y a des balles qui passent les flics sur les gens qui se manifestent de façon pacifique. Je suis absolument contre toutes les violences, Rebecca. Je pense pas que la violence soit une réponse à rien, quoi, parce que la violence fait qu'il y a plus de violence. Là, maintenant, tous les morts... Excusez-moi, je suis complètement cassée en deux, déchirée, parce que c'est pas possible. Mmh. Tous les jours, il y a des viols. Il y a des morts d'une façon différente. C'est pas seulement mourir et quitter cette vie. Il y a pas mal de gens qui sont mort en vie maintenant, parce qu'ils sont des jeunesses qui étaient violées pour les flics. Pas que des femmes en plus, des jeunes filles, des garçons, des petits garçons. Il y a des gens qui sont perdus, la vision, même si c'est partiel. Il n'y a pas une raison, il n'y a pas aucune raison que ça a dû arriver. Il vient de dire qu'il ne va pas arrêter. Il va faire sortir plus de police à la rue. Qu'est-ce qu'on peut faire, finalement? Si même les gens qui sont censés à nous protéger, qui disent qu'ils vont nous protéger, au contraire, ne protègent pas. Et ça m'angoisse énormément. Je voudrais vraiment que les gens au monde entier nous écoutent, nous aident. À Bolivie, ils passent la même chose. À Colombie, ils commencent à passer la même chose. C'est pas possible. C'est ce qui est en train d'arriver à la Latino-Amérique, encore une fois. C'est pas possible. C'est vraiment... Et même, je me sens entre la douleur et l'espoir tous les jours, parce qu'en même temps, je vois notre peuple en essayant de s'unifier pour avoir une meilleure vie. C'est tout ce qu'ils veulent, les gens.
Plus de répression, c'est en effet ce qu'a annoncé à mots couverts le président Piñera ce 24 novembre dans une allocution télévisée.
Je veux informer que Carabineros de Chile va recevoir à partir de cette semaine.
Je souhaite vous informer que la gendarmerie chilienne va recevoir à partir de cette semaine du matériel professionnel de la police d'Angleterre, d'Espagne et de France pour pouvoir mettre en place la stratégie et le processus opérationnel pour améliorer le mécanisme de contrôle de l'ordre public pour donner une meilleure protection à nos compatriotes.
Que la próxima semana vamos a enviar al Congreso Nacional un proyecto de ley que va a permitir a nuestras fuerzas armadas sin necesidad de establecer estado de excepción constitucional.
Je souhaite informer que la semaine prochaine, nous allons déposer au Congrès national un projet de loi qui va permettre à nos forces armées, sans nécessité d'établir l'état d'exception constitutionnelle, sans nécessité de réduire les libertés et droits des citoyens, de participer à la protection des infrastructures stratégiques de notre pays, par exemple tous les systèmes de fourniture d'électricité, d'eau potable, toutes les infrastructures critiques, y compris l'infrastructure policière.
Quant aux suites du mouvement, j'ai demandé à Lisette quelle était sa perception des choses.
Si ça continue de la part du président et ses ministres, puis la police et puis les militaires, si ça continue comme ça, je vois difficile de s'en sortir en fait. Même si c'est vrai, Rebecca, qu'ils sont avancés dans certains aspects très important que ne plus avoir la constitution qui vient de la dictature. Mais par exemple, le mois d'avril, c'est une plébiscite. C'est pas que là, ça va changer. C'est là qu'ils vont demander aux gens si nous, on veut ou pas une nouvelle constitution. C'est pas que ça va avoir une solution le lendemain, les mois suivants. Et puis d'autre part, la vie, elle est pleine de nuances. C'est pas noir et blanc. Il y a des choses que la mobilisation sociale, il a commencé à faire bouger. C'est pas que je ne le vois pas, ça. Il y a la nouvelle constitution qui c'est très, très, très important et qu'on n'aura pas cru, ça fait 2 mois avant, et qu'on aura vivre ça.
Oui.
Vous comprenez, ça, oui. C'est vrai. Mais d'autre part, il y a toute les questionnements sur les droits humains. Puis, il y a pas mal des lois qui pourrait faire changer la vie en tant que, par exemple, vis-à-vis de la retraite, mais qui, ce qu'ils proposent jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas demain, c'est trop petit. À cause de ça, je pense que la mobilisation, ça va continuer. Alors, c'est jour à jour, hein, ici, à chaque jour, ça change.
Et ces suites, c'est la convergence des luttes, notamment celle des femmes, pour l'égalité et le respect de leurs droits. Le 25 novembre, à l'occasion de la journée de l'élimination des violences faites aux femmes, Lisette était dans la rue, entourée de nombreuses femmes. Ce jour-là, les manifestations résonnaient de leurs voix, fortes, puissantes, dénonçant la culture du viol. Ce chant, cette danse, imaginée par le collectif Lastesis, est aujourd'hui repris. Il traverse les océans et a déjà été entendu en Espagne, au Royaume-Uni, en France aussi. Au Chili, ces violences, les violences, sont monnaie courante. Amnesty International a encore récemment relevé les violations des droits humains dans le pays et l'usage de la violence par les forces armées. À l'encontre des communautés indigènes, comme les Mapuches, à l'encontre des femmes, dont certaines viennent de porter plainte pour des agressions et viols dans les commissariats durant ces actuelles journées de mobilisation. Des activistes des causes environnementales subissent aussi de nombreuses pressions et menaces, comme Rodrigo Mundaca, qui vient de recevoir le prix de la Fondation Daniel Mitterrand pour sa lutte pour l'accès à l'eau.
Nous luttons pour faire de l'eau un bien commun et son accès à un droit humain. Il est évident que nous ne nous tenons pas éloignés de ce qui s'est passé au Chili depuis le mois dernier, en particulier depuis le 18 octobre 2019.
Il dira aussi dans ce discours de remise de prix, je cite, « L'Amérique latine est la région la plus dangereuse du monde pour les femmes et les hommes qui défendent le droit à l'eau, à la terre, le droit à vivre dans un environnement non contaminé ». Toujours mieux saisir ce qui secoue le pavé chilien, j'ai pu discuter avec Octavio Avendaño. C'était lundi 25 novembre.
Je suis docteur en sciences politiques de l'Université de Florence, en Italie. Je suis aussi sociologue et professeur d'histoire de l'Université du Chili. Actuellement, je suis professeur du département de sociologie de l'Université du Chili et également professeur de l'Institut des affaires publiques de l'Université du Chili, particulièrement dans le master de sciences politiques.
J'étais curieuse de recueillir sa lecture des enjeux environnementaux, et c'est un sujet qu'il suit de près, notamment la question de l'eau.
Directa, à travers d'un projet d'investigation que j'ai développé depuis l'an 2018,
Alors par-dessus tout, le débat à propos de l'eau, j'ai étudié ce sujet précisément à l'occasion d'un projet d'enquête que nous développons depuis l'année 2018 et qui suscite beaucoup d'attention. C'est la grande quantité de conflits qui ont surgi dans le pays, sur tout le territoire national, à cause, disons, des pénuries d'eau et de l'accaparement de la ressource hydrique par certains hommes d'affaires.
En l'actualité, existe un projet de réforme au code qui a concitado enorme discussion, mais aussi enorme rechazo por parte de los sectores de la derecha.
En ce moment, il existe un projet de réforme du code qui a suscité de nombreux débats, mais aussi des freins de la part de la droite et des hommes d'affaires qui s'opposent à une réforme structurelle qui implique un meilleur contrôle de la part de l'État de la ressource stratégique et importante qu'est l'eau.
De hecho, llama la atención que en las localidades rurales y en las localidades más empobrecidas.
En effet, il faut noter que dans les localités rurales et les localités les plus pauvres, il y a d'énormes pénuries de la ressource hydrique de nos jours.
Y por otro lado, los empresarios mineros, los empresarios.
De l'autre côté, les hommes d'affaires des secteurs miniers et hydrauliques, ainsi que certains grands agriculteurs parviennent à s'organiser pour mettre la main sur une grande partie de la ressource, ce qui crée une situation d'inégalité notoire et évidente.
Ces images sont saisissantes, peut-être les avez-vous vues. Des coteaux verdoyants où poussent des avocats dont nous, Européens, nous délecterons, et une vallée asséchée en contrebas. Vous devinez ? Aux riches agriculteurs les coteaux, aux paysans locaux les terres arides. L'analyse d'Octavio m'est également précieuse pour mieux comprendre l'ampleur de la situation du pays.
Actuellement, le phénomène de conflit et de protestation sociale se poursuit. Il se maintient, peut-être pas avec la même intensité que les premiers jours après le 18 octobre, mais aujourd'hui encore, la protestation persiste comme un mécanisme de pression à l'attention du gouvernement. Un mécanisme qui permet aussi de conforter la demande sociale formulée quelques jours avant le 18 octobre.
En l'actualité, todavía también nos enfrentamos a una situación de movilización que.
Encore aujourd'hui, nous sommes confrontés à une situation de mobilisation qui s'est étendue dans tout le pays, pas seulement à Santiago, mais dans toutes les villes du pays, grandes et petites. C'est un conflit et une mobilisation qui concernent vraiment tout le territoire national.
Está convocada una gran movilización, una huelga general hoy día y mañana.
Un appel à une grande mobilisation, à la grève générale, était lancé pour aujourd'hui et demain par le bureau de l'Union des organisations sociales, avec l'intention de faire converger différentes organisations, branches et syndicats du pays.
Je lui ai également demandé quel était son regard quant aux déclarations de Piñera sur le maintien de l'ordre.
Está por verse cómo va a ser la respuesta por parte de los ciudadanos frente a una medida.
Reste à savoir quelle sera la réaction des citoyens face à ce que beaucoup considèrent comme une véritable provocation vis-à-vis de la population qui s'est mobilisée, qui s'est manifestée ces derniers temps.
En el último tiempo. Es una provocación porque en el fondo.
C'est une provocation parce qu'au fond, ça montre que le gouvernement n'est plus disposé à dialoguer, à établir un canal de dialogue qui devrait intégrer les partis d'opposition, bien sûr, mais aussi d'autres instances de la société civile, notamment des acteurs de l'Union sociale. C'est également une provocation parce que ça montre que les négociations et les discussions politiques sont épuisées et que le recours à la violence par le gouvernement est validé afin de rétablir l'ordre.
En ce sens, les citoyens évaluent de manière négative.
C'est dans ce sens que les citoyens jugent de façon négative ce type d'initiative parce que beaucoup espéraient une autre direction pour ces annonces. Des annonces qui permettraient de refléter l'intention de la part du gouvernement d'ouvrir un vrai agenda social. Et bien au contraire, ce que nous observons, c'est que le gouvernement répond avec toujours plus de répression.
Les enjeux sont sociaux, économiques, environnementaux, mais aussi institutionnels. L'actuelle constitution du Chili date de l'ère Pinochet. Un référendum aura lieu au mois d'avril 2020 pour décider de la conserver ou non.
C'est plus ou moins une réponse attendue, dans le sens où beaucoup pariaient sur un changement de la Constitution, mais souhaitaient aussi un processus plus participatif prenant la forme d'une assemblée constituante. Maintenant, le référendum ne va pas seulement permettre de consulter la population s'agissant de maintenir ou pas la constitution actuelle, de la modifier ou de la remplacer par un nouveau texte constitutionnel. Il va également fixer quel sera le mécanisme. Il y a un mécanisme qui établit une formule mixte. Dans laquelle la moitié des membres de cette convention seront issus de l'actuel Congrès national et l'autre moitié serait constituée de citoyens élus. D'autre part, il existe une alternative à cette proposition qui pose ce que l'on appelle une convention constituante, qui n'est rien de plus qu'une assemblée constituante parce qu'elle est élue par un processus similaire. Ce mécanisme est beaucoup plus participatif que celui évoqué précédemment. Il permet de refléter la représentation de la population, le progrès de la citoyenneté et l'organisation sociale.
Je me suis également adressée à Claudio Calfoukir, secrétaire national du Parti de gauche en France. Son père, chilien, est un réfugié politique. Il aborde la question de la Constitution.
Celle qui est en vigueur au Chili, qui a été écrite en 1981, donc en pleine junte militaire, c'est justement sous Pinochet qui a été écrite cette Constitution. Et elle a été écrite notamment avec une certaine... philosophie, avec une philosophie politique qui est celle justement du néolibéralisme. Donc c'est tout ce concept de société auquel s'affronte Piñera, sans oublier qu'il est également, Piñera est le frère d'un autre Piñera, qui lui était ministre du Travail, et notamment ministre du Travail sous Pinochet. Des premières lignes, en tout cas, puisque c'est encore assez flou, comme je le disais, le cadre n'est pas encore totalement défini. Donc Piñera a annoncé qu'il y aura une proposition, en tout cas de référendum, le 10 avril prochain, avec un vote en cascade. Ce vote en cascade, c'est oui ou non, vous souhaitez une nouvelle constitution. Donc première chose, avec une assemblée constituante. Donc ça, c'est le premier vote. Ensuite, en cascade, si le oui l'emporte, il y a deux possibilités. Il y a un autre vote sur est-ce que vous souhaitez un vote avec 50% des personnes de cette assemblée constituante élues directement par le peuple, et l'autre 50% élus par des représentants de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Tout ceci n'est pas encore, comme je disais, pas totalement défini. Donc ça, c'est le vote, on va dire, A. Et le vote B serait une assemblée constituante élue sur à 100% des en proportionnel direct. Enfin, mais tout ceci est encore à définir. Ce sont que des un peu de suppositions. La seule chose qui a été dite, c'est qu'il y aura un vote en cascade. Et ce qui a été à peu près accordé par une partie des organisations politiques, c'est qu'il y ait une possibilité de blocage de un tiers de cette assemblée constituante. C'est-à-dire que un tiers des députés, s'ils y vont pas, s'ils se rendent pas le jour du vote à l'assemblée, les propositions de cette assemblée ne pourra pas se réaliser. Donc vous voyez que c'est encore, le cadre est encore assez assez flou et peut-être un peu trop contraint. Donc c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles en tout cas le peuple chilien n'est pas entièrement satisfait. Ils en ont entièrement raison.
Quant au lien avec les enjeux écologiques, il s'agit pour lui d'une évidence.
La question écologique est toujours centrale. Et malgré c'est des parallélismes assez aussi assez similaires que l'on peut voir avec les événements ici en France des Gilets jaunes, puisque derrière derrière ce soulèvement, il y a toujours un aspect écologique. Hein. On a fini par manifester et avoir un slogan assez commun où fin du système de notre écosystème, c'est le même. Enfin, les slogans se rejoignent. Et au Chili, c'est un peu la même situation. S'il y a cette situation un peu de révolte. Un peu global, c'est aussi parce qu'il y a eu des manifestations sociales et des manifestations écologiques, que ce soit quelques mois auparavant, des poissons, des grandes industries de la pisciculture qui ont déversé une quantité de poissons dans les lacs, dans la partie sud du Chili, là où il y a la grande industrie du poisson, que ce soit sur les autres combats avec notamment de l'eau, ou que ce soit d'autres... Enfin, vous retrouvez à chaque fois les mêmes combats écologiques et à chaque fois différents combats sociaux qui, dans le fond, sont exactement les mêmes. Les différentes problématiques sont souvent les mêmes, démocratiques, écologiques et sociales, et donc c'est une réponse globale qui doit être apportée.
Ainsi donc, la COP25 débute. C'est avec la conscience des relations nord-sud et sud-nord que je vais suivre ces journées de négociations. Je vais rester attentive aux acteurs représentant ici l'Amérique latine et le Chili en particulier. D'ailleurs, avec Octavio et Lisette, nous avons prévu de nous reparler dans quelques semaines pour savoir si et comment la situation évolue. Alors, je laisse à Lisette le mot de la fin.
Je voudrais que ça s'arrête. Bien sûr, et que les choses y changent, on ne pourrait jamais plus revenir à ce qu'on était avant le 18 octobre. Ça, c'est l'espoir aussi. Il y a tous les jours, à toutes les heures, des assemblées qui commencent à naître.
Un grand merci à Lisette, Octavio, Claudio pour avoir répondu à mes questions. Merci à Anthony Quindroit et Marie Gilles pour les échanges et contacts. Merci dans l'ordre d'apparition à Bigaston, Dimitri Régnier et Antoine Gouritin pour le doublage des voix espagnoles. J'espère que ce premier rendez-vous spécial COP25 vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à le partager, à le recommander autour de vous. Et nous, retrouvons-nous dès demain, toujours à Madrid, toujours à l'occasion de la COP25. Et d'ici là, soyons toujours curieux.